dernier module, on finit en beauté avec les services de bureau à distance de Windows Server 2016.
Écoute, là, je vais te le résumer finalement en un seul slide, les nouveautés. Il y en a quelques-unes. C'est pas énorme, mais il y en a quelques-unes quand même. Première chose, c'est qu'on a désormais un nouveau mode de déploiement. Donc, historiquement, on avait effectivement le déploiement en VDI qui était le poste de travail personnel. On avait le poste de travail en pool, c'est-à-dire générique, les gens se connectaient et se déconnectaient. Et désormais, on a un troisième mode de déploiement qui est le Personal Session Desktop, qui en fait permet de déployer des serveurs ADS, mais à usage de personnes. Intéressant pour des développeurs, par exemple, qui doivent faire des applications. On leur met à disposition, sous la forme d'une sorte de VDI, un serveur en fait provisionné pour eux. Et on ne parle pas ici de poste client VDI, mais bien de serveur pour mettre à leur disposition, en gros, un serveur de terminal pour pouvoir tester leurs applications, etc., mais en mode VDI, avec les fonctions qui vont bien à l'intérieur. On supporte également les VM de génération 2. Donc ça, jusqu'ici, on n'avait pas. On était sur de la génération 1 pour toutes les images exécutées au sein des VDI qui étaient faits dans les RDS de Microsoft. On a corrigé également, ça c'est anecdotique, mais en fait, ça fait quand même depuis 2008 R2 qu'on avait ce bug. Quand on voulait ajouter une carte Remote FX à une machine virtuelle, en fait, ça crachait dans l'Hyper-V Manager. Et donc, il fallait faire la commande en ligne de commande PowerShell. Bon, tous ceux qui en ont déjà fait connaissent la commande et voilà. Mais bon, ça a enfin été corrigé. Désormais, on peut rajouter dans l'interface graphique cette carte Remote FX. On supporte, c'est le point important probablement, on supporte désormais les API OpenGL jusqu'à la version 4.4 et OpenCL jusqu'à la version 1.1. Ce qui, du coup, est l'idée, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs du monde du logiciel pour faire tourner leurs applications qui concernent de l'OpenGL ou de l'OpenCL. Je pense par exemple à Adobe, avec lesquels on a beaucoup travaillé pour ceux qui veulent virtualiser ce type d'application. Donc l'idée, c'est ça derrière. Alors notez, c'est que pour OpenGL ou OpenCL, les systèmes invités supportés qui fonctionneront bien sont les systèmes invités Windows 10 ou Windows Server 2016 uniquement aujourd'hui. Du coup, quand on va avoir des applications OpenGL ou OpenCL qui vont potentiellement consommer, nécessiter des ressources graphiques un peu plus importantes, on pourra désormais allouer en mémoire, en virtual RAM et en mémoire vidéo pour les machines virtuelles jusqu'à 1 giga de mémoire, donc 1 giga de VRAM par carte virtuelle Remote FX par machine virtuelle. Tout ça aussi, c'est pour supporter des résolutions plus élevées. Jusqu'ici, le standard du marché était, on va dire, le Full HD 1920 par 1080
maximum.
Sauf qu'effectivement, dès qu'on commence à monter sur du multi-écran, parce qu'on supporte, je crois, jusqu'à 16 écrans, si je ne dis pas de bêtises, en remote desktop, 16 écrans par cette résolution, ça nécessite beaucoup de RAM, d'où les 1 giga de RAM. Et puis, du coup, maintenant, on a également l'arrivée de nouvelles résolutions. Donc, historiquement, on était limité en session à distance à du QHD, c'est-à-dire 2560 par 1600, ce qu'on trouve à partir des écrans 27 pouces, basiquement. On a aujourd'hui l'arrivée des écrans 4K également, au-delà de la télévision qui arrive dans le monde de l'informatique, donc des écrans qui sont 4 fois une résolution Full HD, donc 3840 par 2160. Donc il fallait pouvoir supporter ce type d'écran quand on veut faire simplement du plein écran et sur un écran 4K alors qu'on a une session distante. On va dire que ça c'est plutôt intéressant pour tous ceux qui veulent effectivement avoir cette très haute résolution pour des outils graphiques ou pour tout autre usage, avoir plein de choses à l'écran à afficher et qui veulent profiter du coup du plein écran. Donc c'est simplement pour ça qu'on l'a fait. Voilà pour, en gros, les nouveautés, ce qu'on a sur les RDS dans Windows Server 2016.
Eh bien, résumons tout ce qu'on vient de voir. Effectivement, Hyper-V, meilleur support des environnements Linux, plus de flexibilité, de fiabilité avec les nouveaux formats de fichiers, etc. En matière de réseau, contrôleur SDN, une vraie architecture SDN extensible, du load balancing et quelques évolutions en matière de DNS. En matière de stockage,
eh bien, trois évolutions majeures à retenir. La QoS sur le stockage. Les Storage Space Redirect permettent d'agréger des disques locaux, d'en créer une sorte de virtuel, un SAN virtuel ou un espace de stockage virtuel. Et les Storage Replica qui permet de répliquer des volumes d'un endroit A à un endroit B. Au niveau du cluster, la mise à jour, facilité du cluster avec ce qu'on appelle le cluster Rolling Update. Donc pouvoir mixer au sein d'un même cluster des environnements 2012 R2 et 2016. Donc ne pas avoir lors d'une migration à casser un cluster et créer un nouveau cluster à côté. Et le Cloud Witness qui sert dans les environnements, on va dire, géographiquement distribués, sur lesquels on n'a pas forcément de base attachée ou pour faire du failover de cluster de machines virtuelles.
au niveau de l'administration, donc toutes les nouveautés des PowerShell V5 qui arrivent en version finale dans Windows Server 2016, Nano Server, donc la possibilité d'avoir des serveurs vraiment taillés juste pour la fonction qu'ils vont pouvoir exécuter, donc au minimum, et puis les nouveautés de VDI pour terminer avec le support des protocoles OpenGL et OpenCL, donc très utilisés, et un nouveau mode de déploiement qui est le Personal Session Desktops, donc des sessions personnelles sur des serveurs.
Exactement.
De Remote Desktop.
Ça vous a plu, vous voulez l'essayer, et ben vous pouvez d'ores et déjà tester tout ça dans Azure. Parfait, environnement de test. La machine virtuelle, il y a également des machines virtuelles qui sont disponibles en téléchargement format VHD si vous êtes abonné TechNet. Vous pouvez télécharger la version complète, l'ISO. La documentation, c'est par ici, vous avez le lien. Et puis également, on va documenter pas mal de petites choses sur nos blogs selon nos sensibilités respectives, évidemment, selon nos sujets de prédilection, aka.ms/Arnaud, Stanislas ou Pascal. Bref, retrouvez-nous sur Microsoft Virtual Academy, tous les cours qu'on fait sur différents sujets, notamment plan de reprise d'activité, on en discutait tout à l'heure, hein, il y a pas mal de sujets.
Et puis d'Azure.
Azure.
Windows 10.
Et puis tous les sujets data center et tous les sujets Windows client.
Donc vous nous retrouvez spécifiquement nos propres cours sur aka.ms/mvafr, cours 100% en français avec
Cocorico,
avec de la bonne humeur française, avec Pascal et avec Arnaud, avec moi.
Et n'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter, dièse cours MVA, @Pessolière, @Esquastana et @Arnaud Lheureux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos feedbacks sur ces cours, ce que vous voulez voir, ce que vous préférez, dire d'arrêter certaines blagues. Il n'y a pas de problème, on prend tout type de feedback. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.